présenter cette édition de Vivre Ensemble, ce sera avec moi, Romain. Une fois n'est pas coutume, je vous propose une série d'entretiens au sein de l'association GAM dans le service d'aide et soins à domicile. Des personnes dévouées qui travaillent pour vous, pour que vous ayez une meilleure vie. Avant de présenter ce service, je vous propose ce témoignage poignant et d'une rare honnêteté d'une aide à domicile qui s'est livrée pleinement.
Je suis Madame Palma Carmen, je travaille à GAM depuis 2001 et j'ai commencé comme aide à domicile et j'ai validé mes acquis en 2008. Depuis 2008, je suis auxiliaire de vie sociale auprès des personnes âgées qui sont malades ou pas, ou handicapées.
Quelle est la différence entre les deux ?
Alors, l'aide à domicile, ça sera plus ménage, courses de quartier ou autre. Il n'y a pas grande différence, sauf que nous, les auxiliaires de vie, on fait des transferts. Une petite toilette de confort, accompagnée avec le fauteuil roulant, le pousser, voilà.
Vous rencontrez des difficultés ? Dans votre travail, lesquelles sont-elles ?
Alors, les difficultés qu'on peut rencontrer, je pencherai plutôt par la solitude de la personne aidée. Le matin, il voit du monde, ça peut être de l'infirmière ou kiné, nous. Et puis l'après-midi, il n'y a plus personne. S'ils ont des interventions l'après-midi, qu'il y a une aide à domicile ou une auxiliaire de vie qui va, ça va. S'ils n'ont personne, eh ben, ils ne voient personne jusqu'à lendemain. Et ils trouvent le temps très long, très très long, mais...
Donc c'est difficile quand ils vous disent qu'ils se sentent seuls. C'est difficile pour
voilà,
vous.
Voilà, la personne qui vous dit déjà depuis quand vous arrivez le matin et qui vous dit le temps est long, ça veut tout dire. Pas le matin, hein, mais l'après-midi est très longue. Je vais me coucher de bonne heure parce que je trouve que le temps ne passe pas. Déjà là, elle vous parle de elle ou il. Il peut vous parler de la solitude. Vous avez aussi beaucoup de caractériel comme toute personne âgée. Mais bon, moi je dis que dans tout problème de caractère, il y a la solitude et puis la douleur qui est derrière. Donc on prend sur soi et puis on les écoute, même on ne peut pas solutionner leurs problèmes, mais on les écoute, on est à leur écoute. C'est ça notre rôle aussi, puisque dans le diplôme d'auxiliaire de vie sociale, il y a le mot « social ».
Est-ce que c'est dur d'écouter des gens qui se plaignent ?
Oui, c'est très dur parce que parfois, nous, on a nos propres problèmes. Donc, on les laisse dehors et on se met là à écouter les problèmes. Souvent, on nous dit « vous vous en foutez ». Mais non, si je vous dis si vous avez un problème, je vous écoute, c'est que je ne m'en fous pas. Sinon, je vous dirais « taisez-vous ». Donc,
est-ce que vous pourriez, est-ce que vous vous souvenez d'une expérience en particulier qui vous a marqué, qui vous a touché ?
Oui. Bon, ils sont décédés depuis, mais j'ai eu un couple très fusionnel. Et lui, il avait le Parkinson et elle, la maladie d'Alzheimer. Ils étaient tout seuls dans un appartement, mais elle a fait 2 AVC, la dame, donc ils ont été obligés d'aller vivre chez la fille. Et malgré ça, je me suis occupée d'eux pendant 9 ans. 8 ans avec le monsieur parce qu'il est parti avant elle, et puis 9 ans avec elle. J'étais même à Grammont parce que la famille me l'a demandé. Je ne suis pas allée de moi-même, je n'y vais jamais. Si la famille me le demande, j'y vais. Sinon, je ne m'impose jamais.
Vous êtes à l'enterrement ?
Non, à la veillée.
Ah, d'accord.
Voilà, l'enterrement, je ne pouvais pas, je travaillais. Mais à la veillée, ils ont demandé que je vienne. Il m'a dit, vous vous êtes occupé de maman pendant 9 ans. on sait comment elle vous a traité et tout. Je dis oui, mais c'était la maladie, c'est pas grave ça. Mais ça m'a marqué parce que ça a été mon premier décès. Deux d'un coup. Mais bon, ça va, bah, on gère quand même. Vous même avez... si ça nous travaille.
Ça vous a pas fait pleurer?
Non, non, mais j'étais quand même triste. Je pleure rarement hein, au niveau, mais ça me fait mal de voir de la misère. Vous savez, il y a beaucoup de personnes âgées isolées. Hein, vous savez, la journée de solidarité, on le voit pas. Hein, on le voit pas. Donc, parfois, ça nous touche énormément. Hein, donc, on le montre pas. Il faut pas le montrer parce que sinon, la personne aidée va me dire comment. T'es triste alors que moi je suis triste, mais non, c'est pas possible. Donc, moi je rigole pas mal, je fais beaucoup de blagues, donc ça passe bien.
Vous conseilleriez votre métier à quelqu'un, aux jeunes?
Les jeunes d'aujourd'hui, non. Parce qu'ils ne sont pas, assez mûrs pour faire ce métier-là. On voit des jeunes qui rentrent et que, quand ils voient tout ça, ils s'en vont. Ils se font manger parce qu'ils n'osent pas dire non. Il y a des limites à ne pas dépasser, donc il faut oser dire non. Ce n'est pas parce que vous dites non que vous ne voulez pas travailler. Il y a des limites à ne pas dépasser. Et les jeunes d'aujourd'hui, je ne conseille pas. Pourtant, il faut bien qu'ils y aillent. Il faut bien qu'ils nous remplacent. Mais si j'aurais pu faire autre chose, pourtant j'adore les personnes âgées, hein, c'est quelque chose que... Mais j'aurais fait autre chose que ça.
Carmen m'a ému, peut-être vous aussi. Pour continuer, prenons de la hauteur sur l'association. Continuons avec Joël Dabouino qui appartient au conseil d'administration.
Je suis administrateur de l'association GAM. GAM est une grosse structure qui a quatre grandes pôles d'action, hein, et l'aide et le soin à domicile fait partie de ces grands pôles d'action. Mon rôle d'administrateur, il est d'être délégué de ce service d'aide et de soins à domicile. C'est la raison pour laquelle je suis l'administrateur invité par votre radio pour venir vous parler de ce service.
Alors d'ailleurs, en parlant de ce service, est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire? Quand est-ce qu'il il est né au sein de l'association?
Alors, ce service est né il y a déjà une vingtaine d'années. C'est une des grosses parts de l'association et qui représente, nous avons actuellement 1000 personnes qui sont prises en charge par ce service.
Et comment ça s'explique que ce soit la partie la plus importante?
Ça s'explique pas vraiment, c'est que c'est une activité qui est très sollicitée dans le Montpelliérain, et il se trouve que ce soit la plus importante des quatre activités de gamme.
Vous fonctionnez à l'extérieur de Montpellier aussi?
On fonctionne à proximité de Montpellier, à l'extérieur. Hein, on peut être sur Latte, sur... sur des zones à proximité de Montpellier. On peut dire que l'évolution, justement, va vers des situations de plus en plus lourdes, si je peux m'exprimer ainsi, avec des personnes qui ont un degré d'autonomie parfois très faible, et donc qui nécessitent des soins importants, mais aussi une aide à domicile importante.
Et est-ce que c'est dû à la croissance de Montpellier? Ou parce que les gens connaissent plus GAM?
Disons qu'il y a plusieurs causes à ça. C'est le refus de certaines personnes de quitter leur domicile. Et disons que le choix de certaines personnes âgées, même si elles sont dans un degré d'autonomie faible, c'est de rester chez elles. Donc l'augmentation du nombre de personnes que nous accueillons dans notre service a pour une part cette cause-là. C'est vrai que Montpellier a une population de personnes âgées importante et que nous sommes très sollicités aussi par le fait de cette population de plus en plus importante.
Quel avenir vous voyez là, cette association ça a amené à grandir, à changer d'endroit peut-être
À grandir, probablement pas, parce que nous sommes installés ici depuis peu de temps, finalement, 2 ans environ, et il ne s'agit pas pour nous de changer de lieu, d'autant plus que nos services sont très commodes pour d'accès. Nous avons des commodités au niveau des transports en commun, ce qui fait que les personnes qui veulent venir dans nos services peuvent y parvenir de façon assez facile. Hein. Alors donc l'évolution, non, l'évolution dans les années à venir, c'est surtout mettre encore plus de qualité dans nos services et d'être encore plus proche des personnes dont on s'occupe. Voilà, c'est pas une envie de grossir.
D'accord, c'est du qualitatif.
C'est du qualitatif.
Du qualitatif, c'est un mot qui reviendra souvent, notamment avec Alexia Mouchard, la directrice du service.
Il y a combien de salariés là ici ?
On est 180 salariés.
Et niveau parité, on en est où ? Parce que je trouvais que c'était beaucoup plus représenté par l'agent féminine.
Tout à fait. Sur le service d'aide et de soins, c'est la même problématique. En tout cas, je ne sais pas si c'est une problématique, mais on a très peu d'hommes qui interviennent à domicile. Ouais.
Donc la mission principale que vous proposez ici ?
Donc on accompagne les personnes âgées et handicapées principalement qui souhaitent rester à domicile. Donc on est sur des interventions d'aide à la vie quotidienne et des interventions de soins.
Les projets que vous aimeriez développer ici ?
Alors on développe déjà des actions de prévention auprès des personnes chez qui on intervient. Donc on voudrait développer davantage ces actions pour lutter contre l'isolement social, la précarité à domicile, qui sont souvent des constats.
Et Joël Dabouno m'a parlé de votre mission, ce que vous aimeriez développer, c'est le qualitatif.
Oui.
Comment est-ce que vous y prendriez ?
Alors, en fait, on intervient effectivement chez des personnes, notamment sur le service d'aide, sur des plans d'aide qui sont donc attribués par le département la plupart du temps ou par des caisses de retraite, avec donc un nombre d'heures qui est alloué pour chaque personne en fonction de son état de dépendance. Le nombre d'heures est souvent bien insuffisant aux besoins constatés de la personne. Donc quand on parle de prise en charge de qualité, on est sur un accompagnement déjà coordonné de nos professionnels. Pouvoir aussi proposer des sorties ou des temps de présence en fait, auprès de ces personnes qui restent à domicile et qui sont souvent seules.
Vous voyez une évolution en termes de nombre de personnes touchées par votre association ou...
Alors, on accompagne à peu près 600 personnes à domicile. On est sur un nombre de personnes qui est relativement stable. C'est au niveau des aidants. Aujourd'hui, les aidants ont effectivement un rôle qui est de plus en plus reconnu. Et on arrive à leur proposer, en tout cas, du soutien. Et c'est éventuellement là où on voit une évolution de notre population ou de notre public. C'est plutôt en ce qui concerne les aidants.
Les aidants, c'est quoi exactement ?
Alors, les aidants, c'est tout type d'aidants. Hein. Ça peut être les aidants familiaux, donc le conjoint, les enfants. Mais ça peut être aussi les parents, si ce sont des personnes handicapées jeunes. Mais ça peut être également l'entourage amical, l'entourage de voisinage. Donc, il peut être toute personne, en tout cas, peut être aidant à partir du moment où elle intervient dans la vie de la personne aidée.
D'accord, vous les intégrez ?
On les intègre dans la prise en charge globale. On sait que pour que les personnes restent à domicile dans de bonnes conditions, il faut également être en soutien auprès de l'aidant, quel que soit l'aidant. On peut proposer en tout cas aux personnes des salariés, nos propres professionnels qui sont nos salariés, mais on peut également leur proposer de les accompagner en tant qu'employeur. On a de plus en plus de personnes qui vivent à domicile, qui veulent gérer leurs propres aides à domicile, en termes de créneaux horaires, en termes de gestion des tâches. Et aujourd'hui, depuis longtemps, on leur propose d'être des employeurs. On les aide dans leur démarche et ils choisissent et ils gèrent en fonction de leurs besoins et de leurs souhaits, leur propre personnel.
Donc, c'est une manière de les responsabiliser de...
Tout à fait. C'est un vrai choix, en tout cas, que certaines personnes font aujourd'hui et de plus en plus.
Et pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que c'est vrai que quand on a des salariés d'une structure, nous on assure effectivement qu'il y a une certaine continuité, mais avec des personnes qui peuvent être amenées à changer. qu'on a des notions de formation. Donc il y a des contraintes organisationnelles, en tout cas, qui ne satisfont pas toujours certaines personnes qui font le choix d'être eux-mêmes des employeurs.
Qui veulent avoir une certaine stabilité.
Une certaine stabilité. Et puis au niveau de la prise en charge financière, c'est une modalité en tout cas qui coûte moins cher que le service prestataire. Et on peut proposer également aux salariés de nos structures, qui sont souvent des personnes qui sont à temps partiel, on peut leur proposer un complément d'activité en intervenant directement chez des particuliers employeurs.
Pour replonger dans les détails du service, j'ai interrogé le chef de service avec lequel j'ai pu échanger longuement. Nous avons approfondi ensemble ce qu'est le service d'aide et de soins à domicile.
Je m'appelle Alain Lefebvre, je suis chef de service sur l'association GAM, donc aussi bien sur le service de soins infirmiers à domicile que sur le service d'aide à domicile.
Les modalités d'accompagnement, est-ce que vous pourriez me parler de ça ?
Alors c'est un accompagnement global, c'est-à-dire que le but c'est de prendre en charge la personne et de l'accompagner de manière globale. C'est pour ça qu'on a un service de soins avec des infirmiers, avec des aides-soignants qui font des soins infirmiers, des injections, des pansements, et puis des aides-soignantes qui vont faire des soins d'hygiène, des toilettes, des choses comme ça. Et puis on a le service d'aide à domicile qui va apporter effectivement le côté ménage, aide humaine, aide à la personne,
accompagnement,
les courses, ça peut être le repas, le petit déjeuner, des choses comme ça. Non. Et c'est là, les deux en tout cas qui permettent de faire une prise en charge globale, puisqu'en fait on est au sens comme dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire le care, c'est le prendre soin. Donc de prendre soin de la personne au sens large du terme et de manière globale.
Aussi bien sur le plan de la santé que sur le plan social, psychologique.
Exactement, voilà. C'est vraiment une prise en charge holistique, donc c'est bio-psycho-social. Le but aussi, c'est de pas aller tout seul sur des situations et de pouvoir mettre des partenaires avec nous, en fait. On a cette possibilité sur GAM d'accompagner aussi bien des personnes qui veulent simplement une heure de ménage par semaine jusqu'à une situation qui est effectivement avec beaucoup de soins, avec des soins infirmiers, avec des auxiliaires de vie, des aides. On a un panel effectivement qui est très très large et c'est pour ça qu'il a été créé aussi le service polyvalent d'aide de soins à domicile qui est le SPASAD, qui effectivement regroupe ces situations où on a nos soignants et nos aides à domicile qui sont sur cette situation.
Est-ce que vous avez une situation compliquée à gérer ?
Une en particulier, on a eu une situation où effectivement on avait des aides à domicile qui devaient intervenir avec notre service de soins. Et le monsieur avait des troubles de mémoire très importantes avec une démence qui était déjà présente, avec un monsieur qui vivait seul à domicile. Et il y avait une présence d'armes, une arme à feu. Et donc il y a eu tout un travail avec la tutelle, avec nos services de soins, pour essayer de savoir comment on pouvait enlever cette arme, parce que cette arme, il pouvait la retourner contre lui-même ou il pouvait la retourner contre des voisins. Donc c'était effectivement un vrai travail de savoir comment on allait pouvoir gérer cette situation, donc avec les équipes encadrantes, pour qu'ensuite ils puissent accompagner aussi les agents sur le terrain, pour qu'on arrive à pas mettre ce monsieur en danger, pour pas qu'il ait l'impression qu'on vienne le voler de quelque chose. Donc il y a eu tout un travail effectivement avec la tutelle, nos services, et puis tout s'est très bien passé. On a pu retirer l'arme à feu et tout s'est très bien passé. Mais voilà, ça a été un vrai travail en collaboration tous ensemble. On fait tout un travail, nous, sur la prévention aussi. C'est-à-dire que s'occuper des personnes âgées et des personnes handicapées... Tout à l'heure, je disais qu'on avait, on avait la possibilité d'avoir des personnes qui n'ont qu'une heure par semaine de ménage, jusqu'à des personnes qui sont très compliquées. Mais le but, c'est justement d'être dans la prévention. Dans la prévention par rapport à l'alimentation, par rapport aux chutes, mais par rapport à la fragilité. C'est-à-dire que ces personnes vont vieillir, elles vont perdre progressivement en autonomie, il va peut-être y avoir des maladies qui vont s'associer. Et en fait, nous, il faut qu'on puisse prévenir. Et on a cette capacité au sein de l'association de pouvoir travailler sur cette prévention et de pouvoir justement proposer un accompagnement qui sera encore plus de qualité. C'est-à-dire qu'en prévenant les choses, on peut permettre à la personne de rester à son domicile le plus longtemps possible, sans qu'elle soit hospitalisée ou sans qu'elle rentre en institution, et parce qu'on aura prévenu certaines choses. Et ça, c'est un vrai travail, en tout cas, à faire aussi en plus, et ce que nous, on peut proposer avec nos salariés. On a aussi des situations où, en fait, sur des situations communes entre les deux services, où effectivement, on va créer effectivement un plan personnalisé d'accompagnement, où on va mettre des objectifs pour qu'on puisse travailler avec la personne, avec la famille, avec l'aidant, parce qu'on ne peut pas différencier, en tout cas, la prise en charge et la réduire simplement à la personne aidée. Obligatoirement, on est obligé d'y inclure la personne qui est présente à domicile. Ça peut être l'époux, ça peut être la fille, ça peut être une voisine. Mais en tout cas, le couple aidant-aidé est vraiment important. C'est-à-dire que quand on travaille, nous, on travaille en prenant soin et en accompagnant les deux personnes. Et c'est pour ça qu'on a créé le Café des aidants, qui est effectivement un service un petit peu en plus, en tout cas, que l'on propose au sein de l'association. Parce que comme ça, au moins, on peut permettre effectivement... Parce que si l'aidant se fatigue... elle ne pourra plus effectivement assurer le quotidien et la personne, en tout cas, ne pourra plus rester à la maison. Donc, c'est vrai que si on est vigilant vis-à-vis de la personne aidante, ça va avoir impact obligatoirement sur la personne aidée. Et si on joue sur ce duo, eh ben on pourra effectivement avoir un accompagnement, une prise en charge qui soit plus pertinente.
Et en termes de prévention, des choses qui reviennent régulièrement ?
Oui, c'est la prévention sur sur les déplacements, sur les chutes, c'est-à-dire de pouvoir mettre des déambulateurs, de pouvoir faire attention, est-ce que le mobilier est bien adapté, est-ce que la salle de bain est bien équipée, est-ce qu'on n'a pas un risque de chute dans la salle de bain, est-ce qu'on a un petit tabouret qu'on ne pourrait pas mettre en plus, des choses comme ça. On a une prévention aussi par rapport à l'alimentation, on intervient pour des repas, eh bien, il faut surveiller le poids, il faut voir si la personne mange assez, est-ce que de regarder dans son frigo, des fois quand on ouvre le frigo c'est quand même révélateur, quand on voit juste deux tranches de jambon et un yaourt, c'est peut-être pas suffisant, la personne âgée a besoin autant de calories qu'une personne normale, donc effectivement il faut qu'elle puisse manger, parce que si elle maigrit elle va perdre des muscles, si elle perd des muscles elle va perdre en autonomie et en déplacement, elle risque de tomber et si elle chute elle peut potentiellement se casser quelque chose et ça sera beaucoup plus difficile pour elle la rééducation. Donc c'est vrai que c'est aussi des modes de prévention, la nutrition, les chutes, mais ça peut passer aussi sur les troubles de mémoire, de travailler sur la mémoire, parce qu'il y a des choses qu'on peut encore apprendre malgré les troubles de mémoire. Donc c'est aussi de la prévention sur ce type de thème. Et c'est très très large.
Et est-ce que vous formez les salariés justement à être attentifs à tout ça ou elles sont déjà...
On a un plan de formation que je suis effectivement avec les responsables de secteur. On essaye de mettre des formations qui soient les plus appropriées et les plus pertinentes possibles pour pouvoir accompagner nos soignants et nos aides à domicile, parce qu'il faut les valoriser, parce que c'est un métier qui est difficile. Donc c'est vrai qu'il faut leur donner les outils pour qu'ils puissent travailler correctement chez le bénéficiaire ou chez le patient. Et en même temps, on va aussi nous travailler sur le recrutement. C'est-à-dire que le but, c'est de trouver des personnes qui soient qualifiées, qui aient des diplômes, qui aient de l'expérience, pour qu'elles puissent savoir s'y prendre, en tout cas vis-à-vis de la personne âgée, vis-à-vis de la personne handicapée. Parce qu'on ne peut pas mettre quelqu'un comme ça qui n'a jamais travaillé auprès de la personne âgée du jour au lendemain. Il y a une manière de faire, une façon d'être, une façon de penser en tout cas, et c'est vrai que c'est important par rapport à ça. Donc c'est l'association des deux.
Vous faites quelque chose pour engager des jeunes, pour les former ?
Alors, les jeunes, oui, parce que je pense que c'est important. Certaines personnes font un peu du jeunisme, c'est-à-dire qu'ils ne veulent absolument pas embaucher des jeunes. Je pense qu'il y a des jeunes qui adorent ce métier, qui ont envie de travailler auprès de la personne âgée ou de la personne handicapée. Donc il faut aider ces personnes-là et il faut les accompagner, il faut les former. Et il y a des personnes qui, au final, s'en sortent vraiment très très bien. Donc je pense qu'il ne faut pas fermer la porte, parce que de toute façon, ces personnes, des fois, qui ont un diplôme, mais tant que personne ne leur a pas donné la chance, eh bien, ils ne s'en sortiront jamais. Donc il faut au moins quelqu'un leur tendre la main. Alors, il y a des fois, ça ne marche pas. Donc, c'est vrai que ça peut être compliqué. Mais il y a des personnes qui sont contentes qu'on leur ait donné la chance. Et puis, les personnes âgées, finalement, des fois, eh bien, ça peut leur faire penser à leurs petits-enfants ou des choses comme ça. Et donc, elles sont aussi contentes d'avoir parfois des personnes jeunes. Alors, il faut aussi avoir des personnes qui sont jeunes, qui ont envie de travailler, qui soient qualifiées, en tout cas, et qui savent s'y prendre. Mais la personne âgée peut aussi être contente, puisqu'on a un partenariat avec le service civique volontaire, avec l'association Unicité. Et on y met effectivement des personnes jeunes qui viennent pour faire de l'accompagnement, pour faire des balades, pour faire juste du bénévolat, pour être présent, discuter. Et ça fonctionne très bien avec Unicité. Et on va même continuer de développer, parce qu'on a vraiment des personnes qui ont envie d'avoir des présences comme ça et d'avoir des bénévoles. C'est vrai qu'on a peu de bénévoles, nous. La gériatrie et l'handicap, c'est un milieu qui fait peur. Les gens n'osent pas venir nous voir. Et on a vraiment aussi besoin de bénévoles, parce qu'il y a des personnes qui sont seules et qui ont simplement envie de discuter, de passer une demi-heure ou d'aller prendre un café en bas ou de prendre un thé à la maison. Et c'est important de pouvoir avoir des bénévoles avec qui on peut travailler.
Les vieux ont besoin de nous. Et je l'annonce en direct, je vais faire les démarches pour passer du temps avec une personne âgée. Et j'espère que vous aussi, car ils sont bien souvent une grande source de savoir. Enfin, pour clôturer ces interviews, Tatiana, une infirmière qui a bien voulu se prêter au jeu des questions.
Je suis infirmière depuis 5 ans, ça fait un an que je suis sur le SIAD. Avant, j'ai passé 4 ans dans un EHPAD et avant ça, j'étais aide-soignante. Donc et j'ai repris mes études entre-temps.
Infirmière, votre rôle ici ?
Alors, il consiste à beaucoup de choses. En premier lieu, bien sûr, le soin auprès de la personne âgée ou de la personne handicapée, en fonction de sa pathologie, bien évidemment. Mais il n'y a pas que ça, hein. Y a un gros rôle de soins relationnels, d'environnement. Enfin, notre prise en charge, elle est totalement globale, hein. À partir du moment où on est sur le domicile, forcément, il y a tout l'environnement du patient qui joue, et tout le secteur familial, tous les partenaires qui exercent au domicile. Donc, il y a vraiment cette notion de soins, donc soit soins d'hygiène, soit au niveau infirmier, peut-être un petit peu plus loin, sur les traitements, sur certaines pathologies, il peut y avoir des injections, etc., des pansements. Ça, après, c'est évolutif, hein, en fonction de la personne. Et après, il y a tout cet environnement-là, donc c'est aussi notre regard, notre surveillance auprès de cette personne. Donc, voilà, si tout est adapté chez eux, s'ils ont à manger, si au niveau de l'environnement, au niveau de l'hygiène, tout va bien. C'est leur protection, hein, aussi.
Vous, quand vous arrivez dans la maison de quelqu'un, à un coup d'œil, vous savez à peu près ce que vous allez pouvoir lui amener ?
Alors aujourd'hui, je pense qu'on a un regard automatique. Je pense que ça s'apprend. Je pense que c'est pas forcément inné au tout départ. Mais avec le temps, avec l'expérience, effectivement, on commence à avoir un regard très élargi, en fait, sur la personne. Donc c'est vrai que quand on rentre dans le domicile, on a ce regard-là, en fait, de prise en charge globale, si vous voulez. En fait, on voit notre patient, mais à côté de ça, on voit tout ce qu'il y a autour. Et c'est vrai qu'on a... On a ce regard-là sur un éventuel danger. Alors, quand je parle d'éventuel danger, ça peut être vraiment tout, hein. Si, effectivement, il y a le matériel adapté pour pas que la personne chute. Ça peut être au niveau de son alimentation, si tout est adapté au niveau de l'hydratation. Enfin, voilà, au niveau de l'environnement aussi, de la structure, de son bâtiment, de son immeuble, de sa maison. Et c'est vrai que quand on rentre, effectivement, on a ce regard-là. Et on a aussi le regard avec les aidants, hein. Qui sont souvent la famille, forcément, ça fait partie de la prise en charge du patient.
Les difficultés que vous rencontrez dans la vie quotidienne ?
Je dirais que c'est peut-être plus sur un aspect social des choses. C'est vrai que cette prise en charge globale, parfois, il y a des contraintes avec soit des familles, soit la difficulté de l'environnement. Et du coup, c'est vrai que voilà, aujourd'hui, il y a des personnes qui, pas forcément au SIAD, mais un peu dans tout, au niveau social, c'est compliqué. Et donc, pour essayer de trouver les aides nécessaires, les partenaires, etc., c'est du travail, quoi. C'est du travail et effectivement...
Il faut creuser.
Et du coup, parfois, c'est épuisant, ce qui est normal. Puis après, il y a l'urgence. Hein. L'urgence, c'est pas toujours facile. Hein. Les urgences médicales qui peuvent être difficiles parce que voilà, c'est des patients qui...
Votre dernière urgence, c'était...
Ma dernière urgence au SIAD, oui, c'était assez éprouvant, oui, effectivement.
C'était quoi ?
Après, je peux pas trop en parler. Hein. C'est secret professionnel, mais bon, une patiente qui était vraiment très mal, où on a dû appeler le SAMU, etc. Et bon, c'est des patients qu'on a au quotidien, donc forcément, c'est...
Ça fait quelque chose.
C'est éprouvant.
Une expérience qui vous a le plus marqué ?
Ouais, il y a une situation qui m'est arrivée il n'y a pas très très longtemps, enfin qui nous est arrivée, hein, parce que c'est un travail d'équipe, hein, donc qui nous est arrivée, où voilà, on a bien travaillé dessus, et effectivement, c'était c'est assez éprouvant.
Parce qu'il vous manquait des moyens pour travailler ?
Alors non, c'est pas du tout des moyens concernant le SIAD, c'est plus tous les partenaires, travailler avec les urgences, la famille, voilà, qui refusait certaines choses. C'est tout le milieu, toute la coordination qui a fait qu'à un moment donné, cette situation-là, elle était effectivement difficile.
Il y avait des blocages qui empêchaient de...
Voilà, il y avait quelques blocages administratifs, beaucoup. Je pense qu'on le sait tous, hein, l'administration française est très compliquée, donc... pour mettre en place des choses, ça prend beaucoup de temps.
Donc vous en êtes sorti finalement
ouais,
de
ouais,
cette...
Oui, on s'en est sorti.
Tant bien que mal, vous avez
avec
réussi
toute l'équipe du CIAD, oui. On a...
Une dernière question, est-ce que vous conseilleriez ce métier à quelqu'un? Pourquoi?
Alors ça, c'est très personnel parce que, oui, bien sûr, je le conseille, mais je le conseille si vraiment c'est quelque chose que... Enfin, je ne vais pas dire que c'est une passion parce que ça reste un travail et qu'il faut savoir faire la part des choses. Mais bon, on ne fait pas ce métier-là pour avoir des bons horaires et pour avoir un très, très bon salaire. Donc, à un moment donné, effectivement, on fait ce métier-là parce que c'est quelque chose ancré en nous hein, de vouloir être dans cette relation d'aide, dans cette...
C'est le cœur.
Dans... Est-ce que c'est le cœur? C'est peut-être un aspect un peu plus humain que finalement d'autres personnes. On a tous un...
Se sentir utile, peut-être.
Je ne sais pas si on soit vraiment se sentir utile. Je pense que c'est plus avoir une faculté de relation, une faculté de patience. Et voilà, et de, un côté humain un petit peu plus que les autres, peut-être un petit peu plus avancé que des personnes
que des
hors
journalistes.
Soins, que des journalistes, je ne sais pas, peut-être. Non, après, il faut en avoir envie, quoi. Aujourd'hui, il ne faut pas faire ce boulot-là parce qu'il y a du travail. Et c'est ce que malheureusement, parfois, on entend. Hein, mais vraiment, il ne faut pas le faire parce qu'on déborde vite. Hein.
En tout cas, vous y retirez du plaisir.
Oui. Pas toujours, mais oui.
Cette série d'interviews est désormais terminée. Vous connaissez mieux maintenant ce service du soin et d'aide à domicile. Vous connaissez mieux l'association GAM, ces gens qui sont porteurs d'un message social, un message d'entraide. On se retrouve plus tard sur les ondes après avoir partagé ces ondes positives. Passez une belle journée sur Radio FM+.